À Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission spéciale qui suit en somme l'émission d'hier. Que doit-on penser des nombreuses révélations privées? Alors, pour parler de cette question-là, j'ai puisé dans le dictionnaire de spiritualité, ce grand dictionnaire qui n'est pas la pensée officielle de l'Église, mais presque, puisqu'il est rédigé par les gens les plus compétents dans l'Église, et qui aiment la spiritualité, et qui aiment les spirituels, et qui aiment tout ce qui a trait à ces auteurs spirituels à travers les temps et à toutes sortes de sujets qui tournent autour de la spiritualité comme les révélations privées. Et l'auteur de l'article du dictionnaire de spiritualité, le fameux père Pierre Admès, qui est un jésuite de Chantilly, près de Paris, et qui est un centre d'études extrêmement sérieux sur les questions religieuses. Et il écrit que le terme apparition, le terme vision aussi, et les autres semblables comme paroles intérieures, qui ont été étudiées dans ce dictionnaire de spiritualité, désigne des phénomènes. Oui, et on est toujours attiré par les phénomènes. Je dois avouer que moi, ça m'intrigue parfois. On peut pas faire autrement, hein. Et ces phénomènes, malgré leur diversité, ont en commun d'être porteurs de quelque chose qui veut dire, justement, quelque chose d'intelligible, quelque chose qu'on peut comprendre, parfois même d'un message déterminés sur un sujet donné, hein, ils appartiennent à l'ordre donc de la communication. Ils communiquent des messages. Et ils font connaître quelque chose qui était, sinon secret, là, du moins, jusque-là inconnu. On a vu ça hier, dans les écrits de Maria Valtorta, comme dans les écrits d'Anne-Catherine Emmerich ou de Marie d'Agreda, des descriptions de lieux, de moments, qui ne sont pas racontés dans les évangiles, mais qui sont extrêmement intéressants, souvent, en particulier chez Maria Valtorta, son texte sur Judas, absolument passionnant. À cet égard, on peut parler de, entre guillemets, révélation. Bon, jusqu'à un certain point. Et c'est l'unique aspect de ces phénomènes qui vont nous intéresser ici. Et en disant révélation privée, là, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, on veut opposer les révélations privées en question, là, à quoi? À la grande révélation avec un R majuscule qui est appelée publique et qui est contenue dans la Bible, dans les Écritures. Et aussi, cette révélation que transmet, il faut pas l'oublier, la tradition avec un T majuscule que nous propose la grande autorité de l'Église qui est mandatée pour ça, n'est-ce pas? Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et cette tradition qui s'adresse aux hommes, cette révélation qui s'adresse aux hommes et aux femmes de partout et de tous les temps, hein? Cette révélation dont le Christ constitue le centre, là, est tenue pour close. C'est fini, c'est fermé dans son contenu à la mort, vous savez, du dernier apôtre, qui est Saint Jean, qui réécrit l'Apocalypse. Ce qui signifie que nous ne pouvons plus nous attendre, après la venue du Christ, il y a donc 2000 ans, à ce que notre situation par rapport au salut soit fondamentalement modifiée. Ça peut plus être modifié. Il y a cependant encore place, et je tiens à le dire et à le répéter comme j'ai dit hier, il y a place dans la phase présente de l'histoire du salut, de l'histoire de l'Église, là, pour des révélations de Dieu, dont il s'agit justement de préciser la nature. Bon, des révélations dans l'histoire, il y en a eu. En réalité, l'Écriture sainte, puis les révélations particulières d'autre part, ne s'excluent pas, hein, ces révélations ne se définissent pas d'une manière négative, même si elles ne font pas partie vraiment du contexte biblique. Je vous ai déjà parlé de certaines révélations comme ça, de certaines personnes, en particulier des femmes. J'en ai fait plusieurs de ces émissions, et sont souvent très très intéressantes sur l'amour de Dieu, sur la Trinité. Et on peut les considérer positivement à cause de ce qu'elles disent, de leur objet, quoi, de leur but, de leur destinataire aussi. Et si tout ça est particulier, là, les révélations sont particulières, et elles restent telles, hein. C'est particulier. Faut pas en faire des dogmes, il faut pas en faire des choses aussi importantes que la Bible et la tradition, hein. Ça peut... On peut être assuré un peu de leur authenticité jusqu'à un certain point. Dans l'Église primitive, d'ailleurs, faut pas l'oublier, ça. Il y a des gens qui sont contre toute révélation privée. Bon, moi, je suis pas d'accord, parce que dans l'Église primitive, les révélations particulières, privées, sont le fait des apôtres. Hein. Prenez Saint-Pierre. Après avoir annoncé le jour de la Pentecôte, l'âge de l'Esprit qui opère par des visions, des prophéties et des songes, dans les Actes au chapitre 2, hein, les Actes des Apôtres, il est informé par une révélation spéciale, oui, une révélation spéciale qui lui arrive, de la façon dont il faut agir avec le fameux centurion Corneille. Ça, c'est au 10e chapitre des Actes, au début. Saint Paul, lui, comment il se convertit? Ben, c'est à la suite d'une révélation privée, qui est reçu sur le chemin de Damas, c'est au chapitre 9 des Actes, au début encore. Et il sera, Saint Paul, continuellement guidé dans son action missionnaire par des révélations particulières. Vous direz que j'exagère, ben non, c'est au chapitre 16, verset 9, chapitre 18, verset 9, chapitre 20, verset 23, et chapitre 27, les versets 23 et 24. Je vous les donne parce qu'il y a beaucoup de gens qui enregistrent et qui pourront ainsi se référer à leur Nouveau Testament s'ils veulent vérifier toutes ces choses-là. Mais c'est pas tout, hein. Viennent s'ajouter des révélations d'ordre strictement personnel, mystique, dont il fait confidence aux Corinthiens, Saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, au début. Puis il y a la fameuse Apocalypse de Saint Jean, avant de proposer ses visions symboliques qui concernent la théologie de l'histoire. Il faudrait bien qu'un jour je vous parle de ça, c'est bien compliqué. Mais il communique à différentes églises et à leurs représentants des révélations particulières qui se rapportent moins à la doctrine, hein, qu'à la vie d'une communauté, ou si vous voulez, d'une église, là, déterminée, ou à celle d'une personne aussi. On trouve ça au début de l'Apocalypse, là, au chapitre 1, puis ça va jusqu'au chapitre 3, verset 22. De toute façon, tout ça peut sembler surprenant, mais c'est comme ça. Et d'autres que les apôtres reçoivent des révélations. Prenez les prophètes chrétiens, que les épîtres pauliniennes placent immédiatement après les apôtres. On voit ça dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, aux deuxième aux Éphésiens, chapitre 20, plutôt dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2 puis au chapitre 4, pardon. Alors, prophétiser ne signifie pas nécessairement révéler. Ça, c'est très important. Inspiré par l'Esprit-Saint, le prophète, quoi, il donne à l'Assemblée, au groupe des chrétiens, là, une exhortation. Et donc, sous l'influence de l'Esprit-Saint, il donne une exhortation. Il donne, disons, l'interprétation d'une parole, ou bien quelques mots d'identification, on sent qu'il est inspiré. Mais il arrive aussi qu'il ait une vraie révélation de Dieu à communiquer. On trouve ça dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 29 et 30. Et cette communication, elle apparaît comme l'acte où s'exprime par excellence la fonction prophétique. Hein? On a vu ça, d'ailleurs, dans le renouveau, aujourd'hui, ça existe. Et des gens très sages, comme le cardinal Sunens et bien d'autres, l'ont remarqué. Mais passons maintenant à la période d'après les apôtres, comme on l'appelle la période post-apostolique, qui signale spécialement deux écrits qui sont particulièrement comme des révélations privées, la Didaké, la fameuse Didaké, qui reconnaît une grande place aux prophètes dans la communauté, mais établit des règles pour discerner les vrais des faux, hein. Très important. Car du fait que quelqu'un parle sous l'inspiration de l'Esprit, ou semble le faire, Il s'ensuit pas qu'il soit un prophète authentique. Faites attention aussi encore aujourd'hui, c'est très dangereux, ça. Puis il y a le fameux, ou l'ouvrage, Le Pasteur, de Dermas. On en parle moins, mais c'est important. Dont les nombreuses révélations de type apocalyptique sont principalement un appel à la conversion des mœurs et à la pénitence. On revient souvent à ça dans l'histoire de l'Église. Les Évangiles, d'ailleurs, nous demandent de nous convertir. Puis dans l'Ancien Testament aussi, quand Dieu fait dire à un psalmiste, ce n'est pas des sacrifices que je veux, c'est la conversion du cœur. La conversion du cœur. C'est-à-dire, convertir, se retourner et retrouver le sourire en voyant Dieu, en se retournant vers lui. Vers l'an 172, donc près d'un siècle et demi après la résurrection de notre Seigneur, il surgit avec la nouvelle prophétie issue de Montan, Montan, M-O-N-T-A-N, dont les prophètes s'arroge une autorité supérieure à celle des évêques. C'est un schisme, ça. Encore, ça commence vite, les schismes. Hein? C'est pas rien que au 16e siècle. Dès le début de l'Église, il y a eu des schismes, c'est-à-dire des séparations dans l'Église. Des gens qui se pensent plus fins que le pape. Plus fins que l'autorité. Toujours. Or, des fois, c'est pas facile d'accepter une certaine autorité papale à travers l'Église. Il y en a eu des mauvaises. Mais il faut toujours être fidèle, hein? Fidèle, garder l'unité. Eux, ils l'ont pas gardé. Alors, il y a eu la vague des phénomènes inquiétants de délire extatique. Et ça, c'est très dangereux. Combattu partout, le montanisme de Montan, là, n'a pas arrêté complètement la croyance aux visions puis aux révélations. On a vu ça dans les actes du martyr de Sainte Perpétue, Sainte Félicité, donc que je vous ai déjà raconté, le 7 mars 97. Vous avez des visions qui sont autant de révélations et qui constituent une partie importante d'un message qui nous a été donné. C'est l'émission 419, si vous voulez la commander. Il y a un homme d'Église tel que Saint Cyprien, dont je vous ai parlé, lui, le 16 septembre 96, ça fait longtemps, c'est une émission 295, le grand Saint-Cyprien. Mais cet homme d'Église a été fortement influencé par les révélations particulières, les siennes propres d'abord, celles de son entourage. Il y appuie son ministère pastoral, qui ne paraît pas avoir eu la chance de plaire à tous. Pensez à Saint-Augustin. Mon Dieu, j'en ai parlé il y a pas quelques jours, le 16 septembre dernier, une émission 683, Saint-Augustin. Alors, Saint-Augustin, il n'a pas aimé ça, les histoires de Saint-Cyprien. Là. Il est plus réservé. Par contre, il nous raconte, puis je vous l'ai lu le 16 septembre, hein, le Tollelege, là, en latin, ça prend, lit, un ange qui lui apparaît. C'est dans le livre 8 de ses confessions, les confessions de Saint-Augustin. J'ai fait la lecture de ça, j'espère que vous en souvenez. Mais c'est pas, pour lui, c'est pas une fiction littéraire ou une espèce d'illusion qu'il aurait entendue, mais c'est une vraie révélation particulière. Et ce serait bien l'unique de la vie de Saint-Augustin. Hein? Saint-Augustin croit quand même à la valeur des songes, c'est autre chose, par lesquels la Providence, bien bonne et bien miséricordieuse de Dieu, peut nous instruire. Des fois, on fait des songes et puis on les interprète, ou des rêves, et puis on les interprète, puis on les trouve comme une gentillesse, une délicatesse de Dieu. Il prend Saint Augustin au sérieux les visions de Sainte Perpétue, dont je vous ai parlé, les révélations de Saint Cyprien. Il les prend au sérieux, mais il pense qu'il est très difficile de discerner les vraies révélations des fausses. Et c'est donc vrai que c'est pas facile. Et faites bien attention. Ne vous dirigez pas trop facilement vers d'osulés, puis toutes sortes de choses comme ça. Attention! Ces réflexions équilibrées à Saint-Augustin sont surtout du 12e livre de son commentaire sur la Genèse au sens littéral. Et tout ça, ça va inspirer en grande partie les exposés doctrinaux sur les révélations, même après plus de 1500 ans. Hein, les révélations sont élaborées à partir du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Hein. C'est un succès que cet ouvrage-là, La Genèse au sens littéral, écrit comme ça après, il y a 1500 ans. Alors maintenant, on va passer au Moyen-Âge, pour voir ce qui se passait dans les révélations privées. Il y en a eu beaucoup, hein. C'est pas rien que d'aujourd'hui qu'il y en a, hein. Et ça, le Moyen-Âge a connu une crise qui a été causée par tout un mouvement apocalyptique, là, qui recommence encore ces temps-ci, hein. Et ça avait été déclenché dans le temps par le fameux Joachim de Flore. Il attendait l'Évangile éternel, lui, ou le règne de l'Esprit sur toute l'humanité, après celui du Christ, hein, ça aurait été le règne de l'Esprit. Puis la réaction contre les illusions de ce qu'on appelle la pensée de Joachim de Flore, le joachimisme, t'a pas empêché les docteurs, les savants, les plus compétents, de souligner la persistance des révélations dans l'histoire de l'Église. Ainsi, saint Thomas, dans son traité sur la prophétie, dans sa somme théologique, hein, il y a un fait notable de l'époque du Moyen-Âge, l'époque du médiéval, hein, c'est le nombre d'ouvrages qui se présentent comme le recueil des visions, les visions privées, là, les révélations privées, des visions divines, qui viennent de femmes, d'une grande sainteté, hein. Je vous ai parlé de presque toutes dans... Prenez Sainte Hildegarde de Bingen, qui est morte en 1179. J'en ai parlé le 17 septembre 97, il y a un an. Il y a aussi Sainte Gertrude d'Elfta. J'en ai parlé le 16 novembre. Je vous en parlerai plutôt le 16 novembre prochain. Elle est morte en 1301. Et puis il y a Angèle de Foligno, cette merveilleuse Angèle de Foligno. Elle est une bienheureuse, elle. J'en ai parlé le 4 janvier 96. Puis Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, j'en ai parlé aussi le 29 avril 98, il y a pas longtemps. Puis les autres, ben, je vous dis pas quand est-ce que je vous en ai parlé, parce que ce serait trop long. Catherine de Gênes, plus tard Marie-Madeleine de Padie. Puis il y a les révélations privées aussi de Sainte Brigitte de Suède, qui est morte en 1373, qui ont eu en particulier une grande influence. Le concile de Bâle, Bâle c'est en Suisse, c'est là qu'habitait Hans-Jürg von Balthasar, hein. Mais le concile de Bâle en avait mis l'examen à son programme. Oui, on examinait ça, on étudiait ça au concile de Bâle. C'était l'occasion des premiers exposés systématiques, on peut dire, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour discerner les révélations. Toute l'émission aujourd'hui, c'est ça. C'est d'essayer entre nous, là, avec l'aide du dictionnaire de spiritualité, comment discerner les révélations, comment se calmer peut-être un peu si on est trop empressé, et comment s'ouvrir un peu aussi si on est fermé complètement. La recherche est due en bonne part à Jean Gerson, le fameux Jean Gerson, qui recommande la prudence, puis de l'autre, à Jean de Torquemada, qui prend la défense des révélations de Sainte Brigitte à ce concile de Bâle. Et ce Torquemada-là, Jean de Torquemada, formule les principes qui ont été depuis repris presque toujours par les théologiens. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Ça date du 15e siècle. Beaucoup d'auteurs spirituels s'y réfèrent. Mais tout à coup, arrive le protestantisme. Là, c'est moins drôle. Le principe de la sola scriptura, tu sais, seule l'écriture compte. Il n'y a plus de tradition qui compte, il n'y a plus d'autres révélations, certainement pas. Les révélations privées ne peuvent pas jamais compter. C'est déterminé par Luther, dont je vous ai parlé le 16 février 96. Et c'est une négation radicale de toute révélation particulière chez les luthériens. Après la Bible, plus rien. Maintenant, dit-il, que nous avons l'Écriture, il n'y a plus rien à nous révéler à côté de ce que les apôtres ont écrit. Nous n'avons plus besoin d'aucune révélation nouvelle particulière. Tenons-nous-en donc à cette révélation de l'Esprit-Saint qui seul nous dira ce que nous devons savoir. Savez-vous que Saint Jean de la Croix pensait la même chose? Il est aussi sévère que Luther. Lui, je vous en ai parlé le 14 décembre 95, mais je vais y revenir, hein? Il est temps. Alors, il est aussi sévère que Luther. Il s'exprime de la même manière, mais pour d'autres raisons. À présent que la foi est fondée dans le Christ, et que la foi évangélique là, est manifestée en cette ère de grâce, il n'y a plus, pour nous, besoin d'interroger Dieu, ni pour lui, de nous répondre comme auparavant, car, dit Saint Jean de la Croix, et je cite Saint Jean de la Croix, « En nous donnant, comme il nous l'a donné, son Fils qui est son unique parole, il nous a dit, dit Saint Jean de la Croix, il nous a dit et révélé toutes choses en une seule fois par cette seule parole, et il n'a plus à parler. » Vous me demanderez où c'est dans la montée du Carmel, deuxième partie, chapitre 22, au numéro 3. Et Saint Jean de la Croix, comme vous voyez, n'y va pas de main morte, ce très grand docteur de l'Église. Le mot d'ordre pratique sera donc clair. Il est nécessaire de ne pas admettre, il dit en italien, « no admitir », les révélations particulières. On ne doit pas les admettre, les révélations particulières, mais au contraire, il faut leur résister, dit-il, résister comme à de dangereuses tentations. Il n'y va pas de main morte. Hein. Peut-être dans la montée du Carmel, toujours. Attention, attention, quand même. On peut essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Il faut quand même se souvenir, ici, de l'intention de Saint Jean de la Croix dans sa montée du Carmel. Saint Jean de la Croix ne considère pas les révélations particulières dans leur aspect charismatique, prophétique et social, comme pourrait le faire un théologien ordinaire. Lui, il pense plutôt à des âmes avancées en spiritualité qu'il veut conduire à l'union divine. Vous connaissez la pensée de Saint Jean de la Croix, hein? Le désir des dons de Dieu, la complaisance naturelle qu'on y prend, constitue, d'après lui, un obstacle majeur à cette union qui s'accomplit directement et dans la foi pure. Le contemplatif, d'après lui, doit renoncer aux dons de Dieu pour Dieu lui-même. Et si d'ailleurs ces communications-là sont vraiment surnaturelles, elles obtiendront leur effet de grâce malgré la résistance de l'âme. Et si ce sont des illusions, bien l'âme n'en subira aucun dommage. Alors il se garantit de tout ça. Il ne peut pas tomber dans des... C'est une bonne position dans un sens pour bien du monde, parce que ça nous empêche de dérailler. Combien de gens déraillent dans les révélations particulières, hein? À Jean de la Croix, on a parfois opposé Thérèse d'Avila, dont je vous ai parlé... Je vais vous parler après-demain, là, le 15 octobre, je vais vous en parler, Thérèse d'Avila. Je l'ai déjà fait aussi les mêmes dates, en 96 puis en 97. Ça va être la troisième année de suite, là. Je l'aime beaucoup, Thérèse d'Avila. Il est certain que vision et révélation ont joué dans l'existence de Sainte Thérèse d'Avila et dans son œuvre une place importante. Mais, très important, elle sait toujours en apprécier les fruits possibles puis en indiquer aussi les dangers. Pendant les derniers siècles, il y a quelque chose de très caractéristique. C'est la série des grandes apparitions, hein, qui ont toute une portée sociale en ce sens qu'elles s'adressent par l'intermédiaire de voyants. Et c'est surtout des femmes, des enfants, hein, les apparitions depuis 150 ans. Puis ça s'adresse à de larges secteurs de la communauté, des catholiques et même des non-catholiques, l'Église entière, si on veut. Les apparitions prenaient de pareils moniales. Ça fait déjà plus de 200 ans, ça. De Sainte Marguerite Marie, ça remonte aux années 1673-1675. Hein? Je vous en ai parlé le 16 octobre 96. Ben, ça a contribué à quoi? À quelque chose de merveilleux. C'est l'expansion de la dévotion au Sacré-Cœur, à la révélation de l'amour du cœur de Jésus. Et c'est un cas typique de révélation particulière. Au 19e et 20e siècle, ce sont les apparitions mariales à Catherine Labouré, dont je vous ai parlé le 30 décembre dernier, 97. Catherine Labouré, je vous en avais déjà parlé avant. Puis les petits bergers de la Salette aussi, hein, en 1846. J'en ai parlé le 19 septembre, 96. Et de Lourdes, bon, j'en ai parlé souvent. Avec Bernadette, en 1858. Pontmain, 1871. Fatima, 1917. Beaurain, 1932. Banneux, 1933. Je suis déjà allé à Banneux, c'est très beau, hein. Et quand les théologiens traitent aujourd'hui de révélations particulières, c'est souvent à ces apparitions, aux messages qui les accompagnent, qu'on parle parfois un secret étrange, c'est à ça qu'ils se réfèrent. Ils se demandent le type de crédibilité qu'elles comportent. Puis aussi, qu'est-ce qu'on devrait faire devant ça? Est-ce qu'on doit croire tout ça? Passons maintenant au discernement des révélations. Bien, une révélation, c'est par définition une communication de Dieu à l'homme. Et l'homme peut avoir la certitude de la présence de Dieu, mais il ne put en transmettre la garantie aux autres? Est-ce qu'il se demande s'il se trompe? Il existe des règles traditionnelles, puis il y a des espèces de petites lois, des critères là, de discernement. C'est très, très, très important, ça. Des critères de discernement employés pour reconnaître l'authenticité ou l'origine divine de ce genre de phénomène. Puis déterminer aussi la conduite à tenir par le directeur spirituel. C'est bon d'avoir un très bon directeur spirituel. Et ces critères concernent l'objet, le sujet, les effets des révélations. On en retiendra ici que le plus important, le premier critère, est d'ordre doctrinal. Il faut que la doctrine soit saine. Pas des affaires abracadabrantes, comme on retrouve à la page 40 du premier tome, je regrette de le dire, de Maria Valtorta. Il faut, avant tout, confronter le contenu de la révélation avec l'enseignement commun de l'Église, car il est exclu que Dieu puisse contredire sa propre parole, c'est évident, hein, dont l'Église est l'interprète autorisé. Alors on regardera donc comme fausse toute révélation en contradiction avec une vérité de foi ou de morale. Mais le fait qu'une révélation n'a rien qui aille contre la foi et les mœurs ne prouve pas son authenticité. Le critère du contenu ne prend une valeur positive que quand la teneur de la révélation n'est pas seulement empreinte de rectitude doctrinale, mais possède une profondeur, un équilibre, une originalité qui dépasse les capacités normales de la personne qui dit avoir reçu cette révélation. J'en profite pour vous recommander un livre qui est très bien fait, publié par les Focolari, là, qui dirige la maison d'édition Nouvelle Cité à Paris. On trouve ça à Montréal, ces livres-là. Et le livre s'appelle « Les faux mystiques chrétiens ». C'est pas très gros, heureusement, c'est pas trop long. C'est bien fait. C'est par Marie-Agnès Vallard-Rossi. Pouvez-vous souvenir de son nom, Rossi, surtout son nom. Les faux mystiques chrétiens chez Nouvelle Cité. C'est paru il y a 10 ans, c'est encore en vente. Alors, il est question des apparitions falsifiées, des supercheries diverses, dont le lot commun des dérives de la religion. Mais il y a plus grave. Le mystique se trompe lui-même, et tout à la fois trompe beaucoup d'autres. En notre époque troublée et incertaine, ce livre propose, sans polémique, là, ni condamnation d'aucune sorte, des critères d'évaluation qui sont fondés sur des cas historiques et qui permettent de discerner le vrai du faux et de s'engager ainsi, sans crainte, sur la voie de la vraie mystique à laquelle tout baptisé a droit. Alors, les faux mystiques chrétiens par Marie-Agnès Vallard-Rossi chez Nouvelle Cité. Je ne vous recommande que ce livre, il y en a beaucoup d'autres, vous pourrez demander à votre libraire. L'examen des qualités de la personne qui dit qu'elle a des visions ou des révélations, c'est très important du point de vue psychologique. Est-ce qu'on peut se demander si c'est une personne bien équilibrée ou bien si elle a des tendances pathologiques, un peu malade, là? C'est pas sa faute, c'est malade. Hein? Une personne malade est pas moindre qu'une autre. Elle est malade et c'est tout. C'est pas une horreur. Ça peut nous arriver, ça peut m'arriver tout de suite, dans 5 minutes. C'est peut-être déjà commencé, je ne sais pas. Au point de vue mental, est-ce qu'il s'agit d'une personne au jugement droit ou bien d'une personne qui a une espèce d'imagination exaltée? Il faut que le directeur se pose ces questions-là. Hein? Une vie moralement parfaite n'est sans doute pas requise pour recevoir des révélations, car Dieu ne se communique à qui il lui plaît. Hein? Certains défauts particuliers constituent souvent un critère négatif. Le manque de sincérité, l'habitude d'amplifier la vérité, ou bien même d'inventer des histoires, le mensonge, tout ça. Ou l'indiscrétion aussi, c'est contraire, ça me semble, à des bons visionnaires, disent-ils. Par contre, il y a 3 vertus qui peuvent être considérées comme des critères positifs. C'est chez le visionnaire ou le visionnaire une humilité sincère, l'obéissance qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais qui cherche Dieu et les autres. Puis, la force d'âme dans les épreuves et les contradictions. Souvent, ils ont à souffrir, ceux qui ont des révélations privées. Ces vertus ne prouvent pas, par leur présence, l'existence d'une révélation, mais Ces vertus-là rendent plus croyable le témoignage du sujet. Enfin, l'art se juge de ses fruits aussi. Il faut donc juger les révélations jusqu'à un certain point par les effets qu'elles produisent dans l'âme. La joie, la paix, la charité, la sainteté. Autre, enfin, est le problème du mécanisme psychologique des révélations. Et le théologien peut discerner l'authenticité d'une révélation de différentes façons. Il n'a pas à établir que l'événement est exempt là, de caractère psychique naturel. Jusqu'à une époque récente, on acceptait généralement la thèse que tant que reste possible une explication naturelle, il faut exclure le recours à une cause surnaturelle, divine. Mais les révélations ne sont pas des miracles au sens strict. Elles ne supposent pas, ça, il faut bien le savoir, ça suppose pas nécessairement une intervention spéciale de Dieu qui suspende le jeu là, des lois psychologiques. Dieu peut se servir comme d'un moyen de communication des possibilités latentes, les possibilités qui sont là, de l'imagination, de l'intelligence et du subconscient projetées dans le domaine qu'on appelle transsubjectif, objectivé, comme on dit en langage de la direction spirituelle. De toute façon, une autre opinion, c'est celle non pas de saint Thomas lui-même, qui n'a jamais explicitement envisagé la question, mais c'est ce qu'on appelle l'école de saint Thomas moderne, l'école thomiste moderne, Cajetan, Soto, Bagnès, Jean de saint Thomas. Elle ne nie pas qu'une révélation privée puisse donner lieu à un acte de foi divine, mais ce n'est pas dans le cas où Dieu révélerait à quelqu'un le mystère surnaturel de sa vie intime. La foi divine, en effet, écoutez bien, c'est très important, n'a pas seulement la parole de Dieu pour motif, mais le mystère même de Dieu pour objet. Là où il y aurait attestation par Dieu d'un objet étranger à son propre mystère, la foi divine ne trouverait pas à se réaliser. Je m'explique. Celle-ci, la foi divine, c'est l'adhésion donnée à Dieu parlant de Dieu. Alors l'école thomiste, qui est la grande école de la pensée catholique, tend ainsi à soustraire les révélations privées au domaine de la foi divine. C'est pas de foi divine des révélations privées, car ces révélations ne portent pas en général sur des vérités qui ne seraient pas contenues dans la révélation publique qui est contenue, elle, dans les saintes écritures, dans la Bible et dans la saine tradition officielle de l'Église. Ces révélations concernent la pratique au sens le plus large de ce mot. Alors Dieu intervient sans doute dans la vie des âmes, mais c'est pour diriger leur conduite personnelle et sociale. Et l'assentiment que requièrent les révélations privées, là, pour les accepter, là, c'est donc un assentiment de foi humaine. Parfois humaine, bon, on entend généralement une forme d'adhésion qui n'est pas quelconque, mais ferme, parce que basée sur des preuves, acquises par l'exercice de notre sens critique, elle relève pas de l'évidence scientifique, mais de, disons, la certitude morale. Bon, et là, j'arrive au cœur du problème, écoutez bien. Il y a le magistère et les révélations, ça c'est très très important. Les autorités de l'Église, qu'est-ce qu'elles font avec les révélations? Comment peuvent-ils, ces gens-là, décider, hein? Parce que les révélations privées ont fréquemment une répercussion assez importante dans l'Église. Ça se répand surtout de nos jours, hein? La télévision, les revues, les journaux, puis il n'y a plus d'imprimatur, hein? Il appartient au magistère, donc aux évêques, au pape, puis à Rome, spécialement à Rome, d'exprimer sur elle un jugement. On voudrait que le Rome accepte tout. Ben voyons donc. Le jugement est parfois désapprobateur, on le sait. On le voit bien avec le cardinal Ratzinger, qui dit que ce n'est pas de source divine les textes de Maria Valtorta, mais qu'on peut les lire avec prudence parce qu'il y a des erreurs ici et là. Les faits ne peuvent être prouvés souvent. Il n'apparaît pas qu'ils soient surnaturels. Ils sont dépourvus de tout caractère surnaturel, croit-on, à Rome. Et lorsqu'il y a approbation, ben il s'agit habituellement d'une approbation au sens large. Ça oblige personne à y croire. le magistère, les autorités, intervient à titre prudentiel pour permettre la divulgation de récits de révélations où rien n'a été prouvé qui soit répréhensible ou inopportun. On n'est pas pour autant obligé d'y croire. Cela résulte des déclarations même du magistère, dont ça a été établi par le pape Benoît XIV. Qu'est-ce qu'il dit, le pape Benoît XIV, qui était un bon pape, qui a vécu au XVIIIe siècle? Voici, je vous lis ce qu'il dit. C'est une dizaine de lignes, c'est pas trop compliqué. C'est un pape qui parle simplement. Il dit, l'approbation donnée par l'Église à une révélation privée n'est pas autre chose que la permission accordée, après un examen attentif, de faire connaître cette révélation pour le bien des fidèles. Il ajoute, à de telles révélations, même approuvées par l'Église, on ne doit pas et on ne peut pas accorder un assentiment de foi. Il faut seulement, selon les lois de la prudence, leur donner l'assentiment de la croyance humaine. En tant que de telles révélations sont probables, et pieusement croyable. Voilà, c'est très important. Ça demeure dans le domaine, non pas de dire « il faut y croire », mais de dire « j'y crois, puis vous, vous y croyez pas, ben vous n'y croyez pas, puis moi j'y crois. » Puis on se dispute pas pour tout ça. Faut pas se disputer. Il suit qu'à de telles révélations, dit le pape Benoît XIV, il suit qu'à de telles révélations, on peut ne pas accorder son assentiment et s'en détourner, pourvu qu'on le fasse avec la modestie convenable, pour de bonnes raisons et sans intention de mépris, comme l'a fait le cardinal Ratzinger vis-à-vis Madame Valtorta. Il a dit qu'on pouvait les imprimer et les lire avec prudence. Il y a trois textes qui expriment la jurisprudence établie par l'Église. Et qui sont aussi souvent mentionnés. Il y a le 6 février 1875, la Congrégation des Rites répondait à une consultation de l'archevêque de Santiago du Chili, et c'est très important. Je vous lis ce texte qui date de plus de 100 ans. Écoutez bien ça, c'est 5 lignes, et c'est clair. Les apparitions ou révélations ne sont ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, mais seulement permises comme pouvant être crues pieusement et de foi humaine, suivant ce qu'on en rapporte et ce que confirment les témoignages méritant créance. Et le 12 mai 1877, donc 2 ans plus tard, la congrégation reprenait exactement ce texte, en réponse à une question de 3 évêques, qui lui demandaient si le Saint-Siège avait approuvé les révélations de Lourdes et de la Salette. Et Pie X, qui est canonisé, Saint Pie X, dans l'encyclique Pascendi de 1907, mois de décembre, il cite encore cette réponse en la commentant, et il dit, le pape Saint Pie X, « En ce qui concerne le jugement apporté sur les pieuses traditions, ou les révélations privées, l'Église use d'une telle prudence qu'elle ne permet point qu'on relate ces traditions par des écrits publics, sinon avec de grandes précautions. » Avec de grandes précautions. Encore ne se porte-t-elle pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait. Simplement, elle n'empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. En somme, c'est la doctrine classique qui est résumée. Quand on écrit à propos de la fête liturgique de Notre-Dame de Lourdes, là, l'Église n'entend pas engager son autorité dans une approbation positive du fait de Massabiel. L'Église ne nous oblige pas à croire ce qui s'est passé à Lourdes. Imaginez, c'est surprenant, hein? Elle se contente de permettre le culte de la Vierge de Lourdes. L'institution de la fête a seulement valeur négative d'une sorte de nickel obstat. En somme, rien ne s'oppose à croire à Lourdes. Mais on peut dire que les révélations de Sainte Marguerite Marie à la Coque, là, au Sacré-Cœur, puis à Lourdes, la question, on peut se demander si c'est pas mieux d'y croire. En tous les cas, c'est mieux de ne pas critiquer, parce que ça a trop été reconnu. Hein. Avec d'autres nuances, il faut penser, comme dans celui de Lourdes, que l'autorité, en somme, du magistère est engagée. C'est pas de façon infaillible. Mais avoir une attitude contraire à Lourdes, là, me semble, c'est un peu téméraire, à mon avis. Moi, je trouve ça téméraire. Moi, j'aime mieux me taire si, par hasard, j'arrivais à ne plus croire à Lourdes. J'y crois à Lourdes, mais si c'est que j'arrivais, je me tairais, je ne dirais rien. Ce sont là des hypothèses. Bon, Mais soyons sérieux, nous allons passer au sens des révélations. Alors, dans la théologie, les révélations privées, on n'en parle pas. Ça fait partie de pas... c'est des parents pauvres, hein. J'ai regardé dans ma bibliothèque des ouvrages de théologie extrêmement sérieux, même très récents, comme, mettons, cette grande introduction à la Bible en de très nombreux volumes, publiés chez Desclés dans une édition nouvelle. Alors, il est question du Nouveau Testament, à un moment donné, dans les tomes 6 et 7, c'est des gros volumes. Évangélie, histoire, les paroles de Jésus-Christ. Il n'y a pas rien qui est très à Catherine Emmerich par rapport aux évangiles, ni Maria Valtorta, ni Marie de Gredeil, on ne parle pas de ça. On se confine à la tradition solide de l'Église et au texte. Quand ce qu'on appelle dans l'Église la dogmatique, la morale, l'exégèse, l'analyse de la Bible touche à ces choses-là, c'est sauf exception, écoutez bien, pour en souligner le caractère accessoire, pour montrer que ça n'a pas d'autorité, que c'est périlleux. Puis les réserves les plus décidées viennent probablement de la théologie mystique, comme on l'a vu avec Saint Jean de la Croix tout à l'heure. Alors soyons prudents. Cette dévaluation générale tient en grande partie aux leçons mêmes de l'expérience, parce que les grands théologiens, les grands auteurs ont de l'expérience. Ce sont des gens qui ont fait des études sérieuses et qui sont des hommes de prière, souvent comme le cardinal Balthazar et d'autres, cardinal de Lubac. Ce sont des hommes de foi et de prière. Parce que ces phénomènes sont aisément sujets à illusions, des déviations, des contrefaçons. Ça peut devenir envahissant. C'est difficilement répressible quand ça prend de la place tout à coup dans les bibliothèques et les librairies. Faisons attention. On peut les lire, je vous le répète, mais soyons prudents. Il y a là aussi peut-être un aspect de la tension que la fonction prophétique a exposé à créer à l'intérieur de l'Église. Karl Rahner, le fameux Karl Rahner jésuite, prétend, non sans exagération, que l'histoire de la théologie mystique est l'histoire de la dévalorisation, au moins spéculative, du prophétisme. Bon, des révélations privées, et de la mise en valeur de la contemplation infuse, pure, non prophétique, sans image et ineffable. Vous allez dire, c'est trop compliqué. Je m'excuse, mais ceux qui comprennent, comprennent. Hein? Car la première, le prophétisme, est plus dangereuse que la seconde façon. Elle risque plus facilement, dit-il, d'entrer en conflit avec les organismes officiels permanents de l'Église. Hein, il a publié ça dans la revue Ascétique et Mystique, en 1949. Alors, il faut être prudent. Hein. On peut pas proposer des doctrines nouvelles simplement parce que telle personne aurait eu une révélation nouvelle. Il n'y a pas de doute, l'aspect doctrinal n'est pas exclu des révélations privées. Bon, c'est sûr. Mais lorsque, cependant, elles attirent l'attention sur certaines vérités de la doctrine chrétienne, ce n'est pas pour ajouter quoi que ce soit au dépôt de notre foi, ni pour faire pénétrer dans le mystère de Dieu de la manière qui convient le mieux à la vie de charité, ou pour permettre, ou pour mettre plutôt en lumière des vérités oubliées, une vérité qui est négligée, trop peu connue. Et ces révélations privées peuvent faire saisir comme ça, d'une manière vivante, dans le but de susciter la dévotion, la ferveur, le zèle. Hein. Je vous en ai déjà parlé de révélations privées comme ça. C'était magnifique, je vous en ai lu des textes. Je suis pas contre. En général, elles sont moins des affirmations que des ordres, qui prennent aussi la forme atténuée d'un conseil, d'une invitation, d'un avertissement. Et toujours, les révélations privées constituent une impulsion. Les vraies révélations privées constituent une impulsion ou un stimulant à une vie spirituelle plus sérieuse, plus intense, qui tend à faire croître dans la foi et l'amour de Dieu, ou à pousser vers des entreprises apostoliques et charitables, nous faire sortir de nous-mêmes, de nos sacrificiés, de nos prières dans l'eau bénite pour sortir. Assez souvent, elles s'expriment en appel à la conversion, à la pénitence, car elle vise de soi au salut de ceux à qui elle s'adresse. Et c'est le cas d'ailleurs dans une grande partie des textes de Maria Valtorta que j'ai trouvé très très beaux, hein? Même si j'ai beaucoup de réserves à l'égard de Maria Valtorta. Je l'aime bien quand même. J'aime bien certains textes, certains passages. Oh, des descriptions qui sont agréables à lire. Il arrive qu'une révélation reste à jamais le secret de quelqu'un. Il y en a qui gardent ça pour elles-mêmes. Hein? Mais on sait bien que les dévotions modernes au Sacré-Cœur puis à Marie ont reçu une expression historique qu'elles n'auraient certainement pas eue sans les révélations de Sainte Marguerite Marie puis les grandes apparitions mariales. Mais encore avec les apparitions mariales, attention, il ne faut pas déroger et remplacer l'Esprit-Saint par la Sainte Vierge. Il est naturel aux révélations particulières de s'exprimer par des signes qui frappent fortement l'attention. Hein? Elles provoquent chez certains, parfois dans l'ensemble du peuple chrétien, un choc salutaire, que les signes sacramentels que nous avons, qui sont si dépouillés puis qui deviennent comme des choses habituelles, ça produit pas aussi facilement. On voit les gens qui laissent des messes pour courir vers des phénomènes. C'est peut-être leur raison d'être providentielle. C'est ce que dit le père Nicolas dans les trucs sur les révélations privées, dans le supplément à la vie spirituelle, en 1953. Bon. Mais les révélations privées se produisent d'une manière irrégulière et sporadique. Et saint Thomas dit justement que tout ce prophétisme a pour but de diriger les actions humaines. Certains milieux se précipitent, c'est sûr, ça, sur ce type de phénomène d'une manière fiévreuse. Il y a des gens qui ne pensent qu'à prendre l'avion pour aller voir des phénomènes. Prendre un autobus pour aller voir des phénomènes aux États-Unis, en Ontario, partout, ils veulent rien manquer. Tout ça, s'il y a quelque chose, comme une espèce de désir de rencontre vécue avec le divin. On veut rencontrer le divin. Parce que ces gens-là sont insatisfaits par une religion trop conventionnelle. Ils ne ressentent pas à l'Église cette rencontre avec le divin. Ils ne voient rien. C'est trop morne à leurs yeux. Peut-être qu'ils savent pas se s'intérioriser et savourer les belles paroles de la messe. D'autres manifestent en réaction un excès de méfiance et d'hostilité. Ce n'est pas mon cas. L'abbé René Laurentin, dans son livre, dans son article plutôt « Fonction et statut des apparitions », l'explique très très bien en deux pages. J'ai pas le temps de vous en parler, mais le bon usage des révélations privées, il me semble, c'est dans le dépassement de ces deux attitudes. D'une part, la fièvre, la passion exagérée où ça prend presque toute la place, et puis le mépris total. Ne soyons pas si méprisants à l'égard de ce que peut nous dire, mon Dieu, des gens merveilleux qui ont vécu parmi nous, comme Marthe Robin. Et soyons sages, oh, ce n'est pas accepté par l'Église de façon totale. Il me semble que qu'en lisant Marthe Robin, on ne s'éloigne pas du cœur de Jésus, et qu'en lisant les révélations de Marguerite, cette Marguerite Marie, et que, en se rendant à Lourdes, il me semble qu'on s'approche de Marie. Et qu'en s'approchant d'elle, bien, on s'approche de Jésus. Et en s'approchant de Jésus, on est au cœur de la Trinité.